don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家正
忙着录制节目，在跟人家。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, mais aussi Clément Salazar, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Dernier volet de notre semaine qu'on a intitulé « Les nouveaux regards du djihadisme » sur le djihadisme, construit et imaginé en écho à un colloque international organisé par l'Observatoire des radicalisations de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et l'Institut Montaigne. Nous avons parlé lundi de transnationalisation de Daesh, on a parlé de radicalisation, on a parlé de stratégie militaire. Aujourd'hui, nous parlons de l'idéologie djihadiste.
L'éducation est indispensable. Le djihad protège toutes les autres actions, mais l'éducation est indispensable. L'enjeu, c'est de savoir comment se présenter et de connaître la politique. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe autour de soi, puis étudier la préparation militaire en commençant par les motivations du combat, avant de voir les méthodes de résistance civile et pour finir, la science militaire.
Comme on voit, l'État islamique a appelé les musulmans à leur prêter allégeance de partout. Et la conséquence est qu'ils ont divisé les musulmans et ont fait naître le trouble dans notre pays. Et maintenant, ils encouragent les gens du commun contre les savants, incitant à les tuer et ils orientent leur combat contre les moudjahidines.
Aux partisans des lois humaines, à leurs soldats, leurs tribunaux et leurs partisans, nous leur disons: nous sommes innocents et vous désavouons. Vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Nous rejetons vos lois humaines et vos tribunaux et nous rejetons vos systèmes corrompus.
Al-Souri, Al-Filistini, Al-Maqdisi, trois idéologues du djihad. En 2006, l'académie militaire de West Point créait la surprise en estimant que l'idéologue islamiste le plus influent n'est ni Oussama Ben Laden, ni Al-Zawahiri, devenu chef d'Al-Qaïda après la mort du numéro 1, mais Abu Mohammed Al-Maqdisi, un jordanien d'origine palestinienne quasiment inconnu du grand public. Cet intellectuel sunnite a pourtant eu une grande influence sur les fondements théoriques de l'État islamique, puisqu'il aurait été le compagnon de route d'Al-Zarqawi, le chef de file de la branche irakienne d'Al-Qaïda, qui deviendra ensuite l'État islamique. D'ailleurs, parmi les textes retrouvés chez Hamedi Koulibaly et Sherif Kouachi, les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, le nom d'Al-Maqdisi revient de façon systématique, tout comme sur le site francophone dédié au djihad Ansar Al-Haq, les partisans de la vérité. Après les attentats du 13 novembre, on s'était intéressé ici à ce micro, à cet ouvrage d'Abou Bakr Nagy, l'administration de la sauvagerie, véritable mode d'emploi du djihadisme qui a largement inspiré Daesh. Mais si l'idéologie salafiste, on l'a vu mardi, recouvre des réalités très disparates, le salafisme guettiste, réformiste, révolutionnaire, violent, il en est de même de l'idéologie djihadiste, aujourd'hui dominée par des penseurs comme Al-Souri, Al-Maqdisi ou encore Al-Falistini. Une nouvelle génération d'intellectuels qui s'accordent sur la guerre à mener contre les mécréants et les apostats, mais pas forcément sur les moyens employés ni sur la hiérarchie des ennemis. Alors quelles sont aujourd'hui les différences entre les théoriciens islamistes, près de 30 ans après la mort d'Abdallah Azzam, considéré comme le père du djihad global moderne, que nous disent les textes des évolutions idéologiques et stratégiques de l'État islamique ou d'Al-Qaïda? En quoi s'illustre-t-il la rupture entre les deux principales organisations djihadistes? Voilà les questions sur lesquelles on va se pencher ce matin avec Farhad Khosrokavar. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'EHESS et puis directeur de l'Observatoire des radicalisations. Vous êtes l'un des co-organisateurs avec Hocham Daoud qu'on avait lundi et puis Pierre Conessa de ce colloque international dont je parlais en début d'émission. Donc depuis trois jours, vous entendez des chercheurs qui viennent un peu de partout dans le monde pour exposer leur vision du djihadisme. Ça fait du bien, j'imagine, Farhad Khosrokavar, de décentrer un petit peu le regard et peut-être de sortir d'une vision peut-être étriqué qu'on pourrait avoir ici de ce phénomène en France?
C'est un phénomène complexe. Et donc, les solutions simples ou les regards simplifiants, si vous voulez, en un sens, ne rendent pas service. Il faut montrer que c'est un phénomène qui a plusieurs dimensions. Ça traverse les âges, ça traverse les sexes, ça traverse aussi les conditions économiques différentes et ça traverse les ethnicités. Bref, c'est un phénomène social total, comme dirait Marcel Mauss, et porter un regard qui restitue le réel dans sa complexité est la tâche finalement des sociologues, des anthropologues, de ceux qui travaillent dans les sciences sociales.
Vous disiez pas simple. On peut avoir parfois des responsables politiques qui tendent finalement au simplisme. Est-ce que vous avez l'impression quand même que ces voix, ces regards suscitent l'intérêt de nos gouvernants? Est-ce qu'ils prêtent attention justement à cette compréhension d'un phénomène difficile et contre lequel ils sont censés combattre pour la sécurité des citoyens?
Je pense qu'il y a eu, cette conférence qui a été organisée, co-organisée par la Maison des sciences de l'homme et l'Institut Montaigne, nous donne la possibilité de proposer aussi, en filigrane, un certain nombre de solutions, entre guillemets. Et là, ça a été quand même bien reçu, puisque hier soir, on a été reçu par le Premier ministre. La ministre Najat Belkacem est venue hier et aujourd'hui à la conférence. Bref, il y a quand même un certain intérêt que les politiques manifestent à l'égard de cette entreprise.
D'accord, donc on n'est plus dans cette idée que la compréhension, c'est la justification. Non, mais je reprends un mot de notre Premier ministre, justement.
J'ai l'impression que sur ce plan, il y a eu un changement de regard ou, à tout le moins, une compréhension de ce phénomène, à savoir que comprendre n'est pas être complice.
Eh bien, voilà plutôt une bonne nouvelle, Farhad Khosrokhava.
Je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que l'écrasante majorité des politiques le savent pertinemment. Mais quelquefois, les exigences de la vie politique et des élections plus ou moins proches peuvent dicter une ligne de conduite qui aussi est compréhensible puisque tout le monde, en un sens, s'y adonne.
Vous aviez préfacé un ouvrage en français sur la nouvelle génération des intellectuels islamistes de Mohamed Al-Soubaï, l'idéologie de l'islamisme radical, qui a été paru chez l'Harmattan. On y apprend beaucoup de choses sur certains des grands penseurs qui ont forgé l'idéologie radicale dont on va parler aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs vous-même écrit un ouvrage sur ce thème, un ouvrage en anglais, Inside Jihadism, qui était paru en 2009. Vous dites justement dans cette préface qu'étudier la pensée de ces idéologues du djihad permet de mesurer bien sûr la cohérence de l'univers intellectuel djihadiste, même s'il y a des différences, on va le voir, mais aussi d'en faire, et là je vous cite, une lecture en négatif de la modernité occidentale et du mode de modernisation adopté par les sociétés musulmanes. D'ailleurs, beaucoup ont vécu et ont étudié en Occident, on va le voir. Et vous dites même que finalement le rejet radical de l'Occident rappelle quelque part celui des gauchistes anti-impérialistes.
Il y a une dimension, si vous voulez, qui se traduit par la violence. Et là, il partage avec les gauchistes, par exemple, Brigade Rouge, l'Action Directe ou autre, ce qu'on pourrait appeler l'Occident arrogant, l'Occident impérialiste. Eux, ils appelaient impérialiste, maintenant ils appellent arrogant. C'est un terme coranique qui rejoint en quelque sorte la vision impérialiste. Bref, il y a un certain nombre de points qui recoupent ceux des mouvements extrémistes, notamment l'anarchisme à la fin du 19e siècle. Et on voit très bien d'ailleurs que ces phénomènes ne sont pas purement aléatoires, puisque mis à part Mardissi, qui est le grand ténor, si vous voulez, du djihadisme, et qui n'a jamais quitté le monde arabe, à ma connaissance, les autres, Tartoussi, Abou Moussa Bassouri, etc., ils ont tous passé quand même de longues périodes de leur existence en Occident. Il y en a même en Europe, et il y en a même qui se sont mariés en Europe. Par exemple, il y en a un qui s'est marié, je crois que c'était Tartoussi, si mes souvenirs sont exacts, ou Abou Moussa Bassouri, je ne m'en souviens plus très bien, mais qui s'est marié à une Espagnole qui s'est convertie à l'islam, et il a vécu quand même une dizaine d'années en Espagne. Par conséquent, ce n'est pas purement aussi aléatoire ou hasardeux. Ils ont vécu en Occident, ils ont pris un certain nombre de traits de ce qu'on pourrait appeler l'extrémisme occidental, ils l'ont transposé dans le contexte islamique et ils l'ont en un sens islamisé. Donc c'est l'islamisation de ce qu'on pourrait appeler l'extrémisme.
Vous rappelez une autre chose qui est intéressante à rappeler, Farhad Khosrokhava, c'est que du point de vue des djihadistes, du point de vue des idéologues, la démocratie n'est pas un système politique, c'est une théologie politique.
C'est une théologie politique et surtout c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire,
Remplacé Dieu par le peuple.
Si on veut vraiment sursimplifier, on dirait qu'il y a deux versants dans cette vision théologique. Un versant qui consiste à dire l'élection par le peuple de ses dirigeants fait que le Parlement va légiférer. C'est au niveau de la loi, la législation. Or, légiférer est un acte qui n'a pas lieu d'être puisque les lois ont été codifiées dans le Coran.
Donc, normalement, c'est un acte divin.
Ça procède de la transcendance divine et par conséquent, vouloir légiférer au nom des humains et l'imposer à tout le monde, c'est-à-dire tous les citoyens, indépendamment de leur religion, c'est un acte qui est vraiment une manière de faire procéder du polythéisme et de l'idolâtrie. Et il y a une autre dimension aussi, c'est que la religion introduit en un sens la différence entre les uns et les autres, non pas en termes de citoyenneté, mais en termes d'adhésion à une foi. Faire du citoyen le socle de la législation signifie finalement se méprendre sur ce qu'on pourrait appeler la différence intrinsèque qu'il y a entre un musulman, un chrétien ou un athée, puisqu'ils ne doivent pas avoir les mêmes droits selon la perspective théologique qu'ils adoptent.
Alors, on va parler tout à l'heure d'Al-Maqdisi, mais on va créer un petit peu de suspense, on va le garder, le mettre de côté pour l'instant. On va commencer par Al-Zarqawi, parce que quand on regarde ce qui constitue finalement la vitrine de Daesh, on trouve notamment des revues, notamment Dabiq, par exemple, qui est le magazine de propagande à destination de l'Occident. C'est le dispositif par lequel on va vanter les mérites de l'organisation, on va faire l'apologie de ses attaques. Dans le dernier numéro, par exemple, on a des photos et des articles sur l'attentat de Bruxelles. Chaque numéro s'ouvre sur une phrase. Je la cite. « L'étincelle a été allumée ici en Irak et si Allah le veut, son feu va continuer à se répandre jusqu'à ce qu'elle brûle les armées de la croix à Dabiq. » Cette citation, elle est signée Abu Musab al-Zarqawi, un homme qui a été tué en 2006, mais qui reste la référence pour les djihadistes de Daesh. Al-Zarqawi est à l'origine donc de cette création de Daesh, mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme, Farhad Khosrokhava, même si bien sûr il a été influencé par de grands idéologues, notamment par Abdullah Azam dont je parlais tout à l'heure, qui est ce professeur jordanien qu'on appelle l'imam du djihad, il n'est pas un penseur, il n'est pas un idéologue. En quoi cette figure d'Al-Zarqawi vous semble justement refléter ce qu'est le projet de Daesh et peut-être en quoi est-ce qu'il révèle ce de quoi est faite et de quoi n'est pas faite l'idéologie de Daesh, précisément?
En fait, on peut le comparer à quelqu'un comme Ben Laden. Ben Laden était beaucoup plus intelligent que lui. Et il avait une tournure théorique un tout petit peu plus développée. Mais les deux sont, en un sens, si vous voulez, des créateurs d'action, mais pas de concept. Il n'y a pas d'analyse conceptuelle du droit musulman ou de djihad, etc. chez Al-Zarqawi. Il n'y en a pas.
Par ailleurs, il a plutôt un parcours de délinquant, cet homme-là.
Il a un parcours de délinquant
pas
et
théologien.
Surtout, il se caractérise par une cruauté extrême que, par exemple, Al-Qaïda aussi a condamné en 2004-2005, si vous voulez, par des lettres qui ont été échangées entre. Ce sont des gens qui n'ont pas d'armature conceptuelle importante.
Ils se placent sous
la tutelle, si vous voulez, des autres, notamment des grands ténors du djihadisme comme Marnissi ou Abu Musab al-Suli ou Abu Qatada ou encore Abdullah Azam.
Donc c'est pas tout à fait un hasard si aujourd'hui l'une des références bibliographiques des hommes de Daesh, c'est l'administration de la sauvagerie qui précisément tient plus du manuel militaire stratégique finalement que du texte religieux.
En fait, c'est un texte important, mais dont l'importance a été exagérée, à mon sens, par les pays occidentaux qui en ont entrepris la traduction. Il y a une dimension dedans qui consiste à dire, pour pouvoir dominer un certain nombre de pays qui ont été soumis à une culture d'idolâtrie, à une culture de Tawhout, il faudra qu'il y ait une régression, qu'on les fasse régresser. Donc ça, c'est évidemment ce qui s'est passé de facto en Afghanistan. Et on a essayé de le faire aussi dans d'autres pays dominés par ces islamistes radicaux. Tout le problème est que cela non plus n'est pas une conception théologique. Mmh. C'est une forme de, dirais-je, sociologie appliquée de la violence. Et c'est dans ce sens-là que ça a un certain succès. Il y a aussi le grand livre d'Abu Musab al-Suli qui est plusieurs milliers de pages, si mes souvenirs sont exacts, et qui montre comment il y a une sociologie, cette fois-ci beaucoup plus codifiée que dans la sauvagerie ou de la barbarie. Il y a une sociologie de la violence qui doit se mettre en place parce que les tentatives comme celle des frères musulmans ou autres ont échoué.
Il faut peut-être rappeler aussi que Al-Zarqawi, il a fait plusieurs justement séjours en Afghanistan et notamment pour y rencontrer Oussama Ben Laden, mais visiblement le courant entre les deux, c'est
Ça s'est pas bien passé entre eux. Exactement. Il n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y a des dimensions, par exemple, chez lui et Daesh, qui existaient sous une certaine forme dans Al-Qaïda, mais pas à tel degré d'intensité. Par exemple, l'antichiisme. Évidemment, Al-Qaïda aussi était antichiite, mais il pensait qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient beaucoup plus importants, et par conséquent, il ne fallait pas tuer trop de chiites afin de ne pas attiser la dissension au sein des communautés musulmanes, même si l'une d'elles, le chiite, était déviante. Par contre, chez Arkaoui et à Daesh, il y a comme une volonté d'annihilation physique des chiites qui est mis un peu sur le même plan que celui d'annihiler, par exemple, les Américains ou les Occidentaux.
On va revenir sur cette, justement, sur cette opposition au monde chiite. L'une des autres figures qui vont compter quand même dans la formation d'Al-Zarqawi, c'est justement celle d'Abu Mohammed al-Maqdisi. Alors il y a des débats pour savoir s'ils se sont rencontrés ou pas, si al-Maqdisi est devenu véritablement son mentor ou pas, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu beaucoup d'influence sur celui qui est le père fondateur de l'État islamique. Il est considéré, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, par l'Académie militaire américaine de West Point comme le prédicateur islamiste qui a le plus d'influence. Est-ce que c'est une réputation méritée? Et qui est cet homme? Quel est son parcours et de quoi est fait son idéologie?
En fait, cette réputation est méritée. Je veux dire, c'est l'un des rares à connaître la théologie et le fiqh, le droit islamique, avoir travaillé, avoir une formation, si vous voulez, théologique conséquente et avoir consacré sa vie à ce phénomène. Il a écrit des milliers de pages. Sur ce plan, je crois qu'il est parmi ceux que j'ai pu lire dans le temps pour faire un livre qui s'appelle « Jihadist Ideology, the Anthropological Perspective », l'idéologie djihadiste, la perspective anthropologique, parmi, c'est le plus intelligent incontestablement avec Abdullah Azzam.
Mais ces ouvrages ne sont pas des ouvrages qui traitent de l'aspect, j'allais dire, opérationnel, militaire des choses. Non. C'est véritablement un théologien. Il a écrit plusieurs ouvrages. Je crois que peut-être le plus important, c'est La religion d'Abraham. C'est un texte de théologie.
C'est un texte de théologie, mais avec quand même un certain nombre d'implications pour la pratique. C'est-à-dire, tous ces textes, d'une certaine façon, mettent en valeur la notion de djihad au sens de la guerre contre les impies dans des situations qui relèvent de la menace contre l'islam. Et là, il le conceptualise et il donne une vision théorique beaucoup plus cohérente que par le passé. Et surtout, la djihadisation de l'islam dans la perspective de ces gens-là est un phénomène qui, quand même, a son expression la plus conséquente, vraisemblablement, chez Mardissi. Chez Abdullah Azzam, il y a quand même un certain nombre de restrictions. Je veux dire, il n'est pas aussi djihadisé que Mardissi. Abdullah Azzam est quelqu'un qui, en un sens, résonne encore dans le cadre théorique traditionnel de l'islam, tout en apportant un certain nombre de possibilités d'antagonisme avec les autres. Il pense qu'il y a les Palestiniens, mais il y a aussi l'Occident, mais il y a surtout les Russes. Pour lui, c'est quand même d'abord l'Union soviétique qui est l'ennemi à abattre, et dans la hiérarchie de ses priorités, c'est la priorité la plus importante.
Oui, c'est toujours cette question aussi de savoir, dans la hiérarchie des ennemis, est-ce que l'ennemi, c'est l'ennemi proche ou est-ce que c'est l'ennemi lointain? Sa position, justement, la position d'Al-Maqdisi vis-à-vis de l'État islamique, il est assez critique, en fait.
Vis-à-vis de l'État islamique, vous voulez dire vis-à-vis de
Daesh.
Il est critique parce qu'il pense qu'ils sont trop extrémistes et qu'en étant extrémistes sous cette forme-là, ils reculent la perspective de l'instauration d'un État islamique universel. C'est dans ce sens-là qu'il est très critique vis-à-vis d'une violence immodérée dont il pense qu'il n'a pas lieu d'être parce que c'est une violence aveugle, en un sens. Et c'est sur ce plan-là qu'il y avait aussi, il avait désapprouvé, si mes souvenirs sont exacts, dans un texte, Zahraoui. Il avait vraiment mis des limites, la violence indue contre les uns et les autres n'est pas nécessaire. Par contre, la violence doit avoir aussi sa rationalité. Il y a comme un aveuglement par la violence dans Daesh et chez Zahraoui et ses disciples qui n'est pas de la culture, ni de la formation, ni de la théorisation de quelqu'un comme Mardissi.
Est-ce que c'est parce que c'est un djihadiste modéré, et je mets des guillemets, qu'il a été libéré par la Jordanie début 2015?
Non, je crois que il a quand même une construction conceptuelle. Mmh. Et dans cette construction conceptuelle, si vous voulez, il y a une hiérarchie qui fait que la violence doit être mesurée en quelque sorte pour la réalisation de cette espèce d'islam ultime qui doit voir le jour. Ce n'est pas tellement parce que les Jordaniens l'auraient bien traité ou non. D'ailleurs, il n'a jamais eu d'implication directe avec le djihad comme ça a été le cas, par exemple, de Ben Laden. C'est un théologien et un théologien extrémiste et qui fait quand même la critique acerbe de ce qu'il appelle les théologiens du sultan. La notion de sultan, c'est-à-dire des dominants. De l'Arabie Saoudite, de ces gens-là, si vous voulez, il y a quand même beaucoup de théologiens et de juristes qui sont au service du royaume saoudien, et lui, il en fait la critique et il montre comment leur vision des choses remet en cause les principes fondamentaux de l'islam.
On va évoquer une autre figure dans un instant, mais juste un dernier point sur Al-Maqdisi, un peu un point naïf de journaliste finalement, parce que vous nous dites que c'est l'un des principaux idéologues du djihad aujourd'hui. Or, quand on regarde un peu les informations dont on dispose, et notamment sur Internet, et par exemple sur Wikipédia, on voit très peu de choses.
En fait, il y a eu un préjugé, si vous voulez, au sujet du djihadisme qui a eu la vie dure, à savoir que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Et par conséquent, ce n'est pas cela qui importe, mais plutôt des analyses de type de réseau, etc. Aux États-Unis, ça a été le cas jusqu'au moment où ils ont mis un budget énorme, après le 11 septembre 2001, si vous voulez, plusieurs milliards de dollars, pour l'étude des différents aspects du djihadisme, dont la dimension idéologique. Mais cette idée, quand même, a eu la vie dure, et en Europe, comme il n'y a pas ces budgets-là, si vous voulez, on a continué à penser, notamment en France, que cette dimension-là n'est pas importante. Ce qui est important, c'est finalement de lutter efficacement contre le djihadisme, et ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. Si, ils réfléchissent, malheureusement, ils sont intelligents, du moins dans leurs idéologues majeurs, et ils conceptualisent, et cette conceptualisation, si vous voulez, si on ne lutte pas contre ses effets et surtout par une contre-conceptualisation au nom même de l'islam, eh ben, elle aura une portée dévastatrice.
Alors, l'autre référence d'Al-Zarqawi, c'est un théologien égyptien, Abou Abdallah Al-Muajjer, auteur d'un ouvrage intitulé « Jurisprudence du sang », devenu une référence pour les futurs cadres justement de Daesh. Alors, lui, quels sont ses grands principes idéologiques? Est-ce que c'est très différent de ce qu'on retrouve avec Maqdisi?
Écoutez,
et notamment justement sur la fameuse question chiite, peut-être.
Alors, vous savez, pour Muajjer, je ne l'ai pas autant étudié que Maqdisi, donc je ne me sens pas aussi compétent.
Mais en tout cas, l'une des...
Mais disons que c'est quand même quelqu'un qui va davantage dans le sens de l'extrémisme, et donc à les faveurs, en quelque sorte, de Daesh sur ce plan, d'autant plus qu'il donne une justification de l'antichiisme, qui est quand même l'un des piliers de distinction de Daesh par rapport à Al-Qaïda.
Voilà, c'est ça. Il théorise l'élimination des chiites et des apostats.
Exactement.
Cette désignation justement des chiites comme ennemis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans cet ouvrage dont on a dit qu'il est évidemment cet ouvrage de référence pour les djihadistes de Daesh, de l'administration de la sauvagerie, dont on accorde la paternité à Abou Bakr Naji. Comment comprendre que des idéologues, des penseurs, des théologiens, même si vous n'êtes pas un spécialiste d'Al-Muajjer, puissent considérer que les chiites, donc des musulmans, puissent être vus comme des ennemis qui seraient légaux, légitimes, je ne sais pas quel mot est-ce qu'il faut utiliser, de tuer?
En fait, ça remonte à une tradition millénaire. Il y avait déjà, à la mort du prophète, Ali, quand il a fait son compromis avec Moavie, etc., il y avait les Khawarij. D'ailleurs, la notion de Khawarij, c'est-à-dire ceux qui se mettent en dehors de l'islam, par exemple. Enfin, il existait, il était vraiment dans une intolérance totale et ça exprimait déjà cette espèce de rigidité, si vous voulez, inflexibilité vis-à-vis de ceux qu'il qualifiait d'adversaires et qui étaient pratiquement les disciples d'Ali. Alors, ce phénomène, si vous voulez, peut aller très loin. Ça existait. Mais il y a eu quand même une très grande période où l'intolérance vis-à-vis des chiites, qui ont été une minorité, maintenant c'est aux alentours de 10 à 15%, on estime les chiites comme étant 10 à 15% et concentrés quand même dans un certain nombre de pays, et puis dispersés un peu dans d'autres. L'Iran ayant la plus grande proportion de chiites, aux alentours de 90%. L'Irak, aux alentours de 60-65%. Le Liban, on ne sait pas très bien, parce que c'est un enjeu politique aussi, c'est pas comme ça, mais disons qu'il forme quand même au moins une parité avec les sunnites. Et après, on a des minorités chiites, par exemple en Arabie Saoudite, 10 à 15%, surtout dans la région de Ratif, qui est la région pétrolière, d'ailleurs, pas très loin de Bahreïn. À Bahreïn aussi, vous avez une majorité chiite, mais dominée par des sunnites très liés au royaume saoudien. Bref, cette espèce d'antagonisme a toujours existé, mais pas sous cette forme aussi radicale. C'est la première fois, vraisemblablement, dans l'histoire de l'islam, qu'on assiste à cette tentation d'élimination physique des chiites. Évidemment, ils n'y parviendront pas parce que il y a quand même, on ne peut pas éliminer, mettons 10 à 15%, ça fait quand même plus de 150 millions. On ne peut pas faire ça aussi aisément. Mais c'est la première fois. C'est la première fois sous cette forme systématique d'annihilation du chiisme. C'est une sorte de Shoah, si vous voulez, chiite, que Daesh entend mettre en place à supposer qu'il arrive à mettre la main sur de grands territoires peuplés de chiites.
Ça, c'est une véritable rupture avec Al-Qaïda, pour le coup. À l'époque, exactement. À l'époque de Ben Laden, on avait fait précisément le choix de dépasser cette opposition chiite-sunnite. Alors, je ne sais pas si c'était un dépassement parce qu'on considérait que d'un point de vue stratégique, il fallait la dépasser ou parce qu'il y avait une question véritablement idéologique.
Non, c'était stratégique. C'était stratégique. Il y avait un antichiisme. Vous savez, il y a un antichiisme chez ces sunnites radicalisés qui est en un sens lié à leur vision de la Oumma, de la communauté musulmane. Et toute dissension est en un sens, si vous voulez, c'est de la fitna. C'est la fitna, c'est la dissension, c'est le désordre. Et dans ce sens-là, on peut dire que Al-Qaïda détestait les chiites, mais pensait que l'élimination physique, en ce moment précis, n'était pas la meilleure solution.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des nouveaux regards du djihadisme. Aujourd'hui dans la bibliothèque des djihadistes, on s'intéresse aux idéologues du djihad avec Farhad Khosrokavar. On parlait d'Al-Qaïda, et bien justement on va évoquer celui qui aujourd'hui est à la tête d'Al-Qaïda.
Nous demandons seulement à Allah que les Américains partent après la perte de 200 à 300 morts. Nous avons fait couler le sang jusqu'à Washington et en Europe. Une inoubliable leçon qu'ils n'oublieront pas pour prévenir à leur doctrine et à leur système moral qui a engendré cette historique entité criminelle que sont les croisés sionistes. Le djihad en Irak aujourd'hui, par la grâce d'Allah, est au stade de la défaite des croisés envahisseurs et des traîtres qui les soutiennent, à un stade de consolidation d'un émirat islamique des Mujahidines qui libérera la terre d'islam, quand les règles de la charia qui donnent aux faibles et à l'opprimé le retour de leurs droits et rehaussent la bannière de l'islam à travers un chemin robuste de sacrifices et de dons jusqu'à Jérusalem par la permission d'Allah.
Ayman al-Zawahiri, l'idéologue en chef d'Al-Qaïda, celui qui est considéré comme le planificateur, le penseur des attentats du 11 septembre. On va retrouver un nouvel invité, Farhad Khosrokavar, c'est Stéphane Lacroix qui est avec nous par téléphone. Bonjour Stéphane Lacroix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, un spécialiste d'islam politique. Vous êtes professeur à Sciences Po par ailleurs. Vous aviez participé en 2005 à un ouvrage collectif intitulé Al-Qaïda dans le texte, qui avait été dirigé par Gilles Kepel. Vous y aviez rédigé le chapitre consacré justement à Ayman al-Zawahiri, dont on va parler aujourd'hui, l'actuel chef d'Al-Qaïda, vétéran du djihad. Et vous entamiez votre chapitre sur ces mots. Je vous cite. De toutes les figures de la mouvance djihadiste internationale, c'est l'Égyptien Ayman al-Zawahiri qui illustre le mieux l'histoire de l'islamisme radical sunnite contemporain. Donc on va en parler. Mais à l'époque, Daesh n'existait pas encore. Est-ce que le vétéran du djihad n'a pas été totalement dépassé par l'État islamique, à la fois sur le plan de l'action, mais aussi peut-être sur le plan de l'idéologie ?
En tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'impulsion médiatique est clairement du côté de l'État islamique. L'État islamique a mis en place une sorte de djihadisme 2.0 qui a donner l'impression, en tout cas dans un premier temps, de ringardiser Al-Qaïda. Hein. On a deux stratégies bien différentes qui s'opposent. Je crois que vous en avez discuté avec vos invités. La stratégie de Daesh, c'est un peu la stratégie du bulldozer. La stratégie d'Al-Qaïda, c'est plutôt d'essayer de gagner un peu les cœurs et les esprits des musulmans avec cette idée d'unité de l'Oumma contre l'ennemi commun. Donc on essaye d'euphémiser les différences théologiques, même si Al-Qaïda est un mouvement sunnite et qui se réclame d'un islam sunnite dur, mais qui dans sa stratégie d'action, essaye d'euphémiser les différences. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, la stratégie du bulldozer, qu'il soit bulldozer politique, militaire, médiatique de Daesh, semble l'emporter. Maintenant, je crois qu'il faut aussi être prudent, parce que quand on voit un pays comme la Syrie, hein, aujourd'hui on a la branche d'Al-Qaïda qui est Jabhat al-Nusra, qui compte toujours énormément, moi je connais pas mal de gens qui travaillent sur cette question de près, qui sont pas loin de penser que la stratégie de Jabhat al-Nusra pourrait à terme s'avérer plus payante. C'est-à-dire que Jabhat al-Nusra essaye de se fondre dans la révolution syrienne, combat avec d'autres groupes qui partagent pas son idéologie, du coup a réussi à gagner le respect d'une partie des acteurs du conflit armé syrien du côté de l'opposition, y compris des gens qui sont pas des djihadistes, bénéficie d'une certaine image positive dans l'opinion publique. Donc, d'une certaine manière, on a l'impression que Jabhat al-Nusra et au-delà hein, Al-Qaïda, ils sont en train de jouer une partie qu'ils imaginent être une partie très longue. On a l'impression que Daesh a essayé de bousculer le calendrier djihadiste. Dans un premier temps, ça semble fonctionner. Il n'est pas exclu que dans 5 ans, on se dise finalement la stratégie d'Al-Qaïda, du point de vue de la mouvance djihadiste, était plus payante.
D'accord. Donc finalement, ce que vous pensez, c'est que peut-être que l'assise d'Al-Qaïda, peut-être que la stratégie de long terme justement d'Al-Qaïda pourrait faire que l'organisation de l'État islamique pourrait passer comme ça comme une comète et il ne resterait finalement à la fin, en tout cas dans quelques années peut-être, que Al-Qaïda justement. Vous disiez gagner le cœur et les esprits, Stéphane Lacroix. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans la pensée d'Ayman al-Zawahiri?
Ah, c'est le cœur de sa pensée. C'est-à-dire que Zawahiri, il est dans une logique, et on le voit quand il pense les attentats du 11 septembre, hein, il écrit ce livre après les attentats du 11 septembre, qui s'appelle « Cavalier sous la bannière du prophète », qui est une sorte de réflexion qu'il écrit depuis l'Afghanistan ou les zones tribales du Pakistan, où il est à l'époque réfugié. Hein, c'est au moment de la guerre américaine, de la guerre de l'OTAN en Afghanistan. Et dans ce long traité, il réfléchit à justement comment faire pour que l'Oumma se réveille, comment faire pour que les musulmans, entre guillemets, par-delà leurs différences, soutiennent le projet djihadiste. Donc toute la réflexion, elle est axée sur cette idée, c'est-à-dire Al-Qaïda se voit comme une sorte d'avant-garde qui a pour but d'entraîner derrière elle la totalité des musulmans qui, selon l'analyse que fait Al-Qaïda, ont besoin de prendre cette conscience de l'ordre du monde, conscience de la domination qu'exerce l'Occident, etc. C'est pour ça que quand on écoute Zawahiri ou quand on regarde les discours de Ben Laden, il y a toujours une longue litanie où on vous répète tout ce qu'a fait l'Occident pour justifier les actions, etc. On est dans quelque chose qui se veut une forme de conscientisation politique djihadiste des masses, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est central pour Al-Qaïda. J'ai l'impression que pour Daesh, la communication, elle c'est plus par le fait, si vous voulez, Daesh. En termes théoriques, c'est beaucoup plus faible. Il y a beaucoup moins de volonté, au contraire, de produire un corpus, d'écrire tous ces pamphlets pour lesquels Al-Qaïda était célèbre. Chez Daesh, on produit des vidéos et on a l'impression que ça va beaucoup plus vite et que voilà, les instruments de la propagande ont aussi changé très largement.
Farhad Khosrokhava, Stéphane Lacroix nous dit finalement, Ayman al-Zawahiri et d'une certaine manière Al-Qaïda qu'ils portent, ils sont à l'avant-garde de cette idéologie qui vise à entraîner l'ensemble de la Oumma, la communauté musulmane.
Tout à fait. Je crois que Stéphane a raison. Il y a cette volonté de ne pas accuser les dissensions au sein de la communauté musulmane afin de pouvoir mieux lutter contre les adversaires. Or, pour Daesh, ce qui est important, c'est de préserver cette pureté sunnite contre les autres et notamment déclarer frontalement la guerre aux chiites. Il y a deux stratégies totalement différentes.
Stéphane Lacroix, essayons d'aller gratter un petit peu pour voir ce qu'il y a justement derrière al-Zawahiri. Celui qui a marqué beaucoup sa pensée et qui d'une certaine manière a déclenché aussi son engagement djihadiste, c'est un autre penseur, Sayyid Qutb. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, Sayyid Qutb.
Qutb. C'est QTB.
Voilà, QTB, je ne savais pas comment le prononcer. Il est né en 1906, il est mort en 1966, c'est un Égyptien qui était d'abord membre des Frères musulmans et qui va ensuite s'en éloigner un petit peu et qui pour des raisons de parcours personnel, on va le voir, il est allé en prison, il a été torturé, il va connaître une forme de radicalisation intellectuelle, pourrait-on dire. Ça, c'est une figure très importante, fondatrice pour al-Zawahiri.
C'est une figure fondatrice et Zawahiri d'ailleurs fait coïncider la date de son engagement islamiste, hein, qui est 1966, avec la date de la mort de Sayyid Qutb. Quand Zawahiri écrit ses mémoires, il dit voilà, c'est en 1966, alors que Sayyid Qutb mourait en martyr, pendu sur ordre de Nasser, que donc Zawahiri décide d'entrer dans le mouvement islamiste. Ça fait 50 ans que Zawahiri est un activiste. C'est pour ça aussi que je disais qu'il était vous lisiez dans l'introduction du texte qu'il est un peu, voilà, son histoire, d'une certaine manière, correspond à l'histoire du mouvement islamiste dans toutes ses radicalisations depuis 50 ans. Mais oui, effectivement, cette figure de Saïd Qutb, elle va être l'inspiration idéologique première de Zawahiri. Saïd Qutb, quelle est sa particularité? Il est ce qu'on pourrait appeler un islamiste révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va prendre cette pensée des frères musulmans avec cette idée que la solution au problème du monde musulman, c'est l'islam et c'est la fondation de ce que les frères musulmans appellent un État islamique. Et là où Qutb va diverger avec la ligne majoritaire des frères, c'est que Qutb va prôner une stratégie révolutionnaire, c'est-à-dire une stratégie de renversement des États existants qu'il considère comme des États impies et de remplacement de ces États par des États islamiques. Donc il y a voilà évidemment une stratégie qui inclut ou qui implique la violence, hein, et c'est quelque chose qui est présent dans les textes de Qutb, c'est sur cette ligne révolutionnaire que va embrayer Zawahiri. Il va devenir dans les années 70 l'une des figures du mouvement Al-Jihad, hein. Alors c'est le mot jihad mais prononcé à l'égyptienne puisque le J se prononce G dans le dialecte égyptien, et ce mouvement Al-Jihad auquel appartient Zawahiri, il va faire son premier fait d'armes en 1980 avec l'assassinat du président Sadat. Mmh. Et donc Zawahiri est d'une certaine manière un vieux de la vieille. Alors là encore, il est pas dans les leaders de Jihad en 1981, il fait partie des figures un peu montantes de l'organisation. Après l'emprisonnement des leaders en 1981, lui va écoper d'une peine de prison relativement légère parce que c'est un militant de second rang. Il va être libéré et c'est dans les années 80 qu'il va s'imposer comme le leader du groupe Jihad. Mmh. Donc de cet islamisme révolutionnaire, le groupe Jihad, à la fin des années 1990, en 1998, rejoint formellement Al-Qaïda, dont il constitue avec le groupe fondé par Oussama Ben Laden au début des années 90 ou à la fin des années 80, dont il va constituer la base. En fait, Al-Qaïda, au départ, c'est une collaboration entre les Égyptiens qui sont venus avec Zawahiri et qui sont héritiers de cet islamisme révolutionnaire égyptien et du groupe Al-Qaïda. Et de l'autre côté, Oussama Ben Laden, marqué par l'expérience saoudienne, qui vient donc d'un tout autre environnement sociologique et mental, marqué par la guerre du Golfe, les troupes américaines en Arabie Saoudite après 90, et Al-Qaïda, d'une certaine manière, va fusionner ces deux logiques, et avec ce triumvirat, en fait, qui va diriger l'organisation depuis le début, qui est le triumvirat Ben Laden Zawahiri, réduit aujourd'hui à Zawahiri, faute de, voilà, depuis la mort de Ben Laden.
Oui, c'est ça, parce que cette expérience nationale, ce désir finalement de renverser le régime égyptien, et puis qui va d'ailleurs lui coûter la prison, parce que même s'il n'est pas lié directement à l'assassinat d'Al-Sadat, le fait d'être devenu une figure centrale dans la mouvance djihadiste nationale, ça va suffire aux yeux du régime pour justifier son incarcération et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les tortures, etc., qui vont constituer un véritable traumatisme pour lui. Il quitte ensuite l'Égypte. C'est là qu'il part d'abord en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan. Vous racontez tout ça dans le chapitre de ce livre que j'évoquais. Et c'est là qu'émerge évidemment cette figure montante à l'époque, cette étoile montante dans le djihadisme international, Oussama Ben Laden. À l'époque, il n'est pas très connu, mais Zawahiri, il voit déjà en lui un véritable leader et va s'engager. C'est là que c'est intéressant, une forme de concurrence avec une autre figure centrale, Abdallah Azzam, dont je parlais tout à l'heure, qui est le palestinien, celui qu'on décrit comme l'imam du djihad, qui a eu un rôle capital dans le mouvement du djihad mondial. Et Zawahiri et Azzam vont se livrer une sorte de bataille politique pour attirer vers Ben Laden. Et finalement, c'est Zawahiri qui va l'emporter.
C'est Zawahiri qui va l'emporter. Bah, ce qui attire chez Ben Laden, c'est effectivement qu'il a ce charisme, il a cette image un peu de Che Guevara musulman qui a tout abandonné pour venir faire le djihad en Afghanistan. Donc je pense que aussi bien Azzam que Zawahiri comprennent le potentiel entre guillemets médiatique de Ben Laden dès les années 80. Ils comprennent aussi que Ben Laden vient des plus grandes familles d'Arabie Saoudite, qu'il est extrêmement riche, donc il a accès à des réseaux de financement très importants. Et donc l'un et l'autre vont se disputer les faveurs de Ben Laden, espérant l'attirer de leur côté pour bénéficier, voilà, à la fois du charisme naissant du personnage et puis surtout
et puis des finances.
De ses revenus financiers.
Eh oui, c'est ça. Farhad Khosrokhavar, un mot sur cette concurrence dont je parlais.
Stéphane l'a très bien décrite, mais je voudrais revenir sur Qutb. en fait, si vous voulez, Qutb prend une notion fondamentale qui a été conceptualisée par Maududi, indien qui deviendra pakistanais puisque l'indépendance, et c'est la notion de Hakimiya. La notion de Hakimiya, c'est ça qui est intéressant de voir, qui est une politisation de l'islam. L'islam, si vous voulez, a été quand même dans le domaine juridique. Et le politique, si vous voulez, lui échappait souvent, même dans les califats, etc. Du côté chiite, c'est la notion de velayat-e-fari par Khomeini, l'ayatollah Khomeini, qui politise l'islam chiite et qui est à l'origine de la révolution islamique sur le plan conceptuel. Et du côté sunnite, avec Rotep, qui prend cette notion de Maududi, Hakimiya. C'est-à-dire, pour la première fois, la question se pose explicitement à partir d'une armature conceptuelle qui s'est renouvelée de la prise du pouvoir politique par des personnes qui se réclament de l'islam afin d'imposer l'islamisation du monde musulman, cette fois-ci par le politique et par le haut.
Et d'imposer la création d'un État islamique fondé sur la charia et de prôner aussi le djihad violent d'une certaine
Exactement.
Matière. Maududi, c'est le premier finalement à s'engager vers cette route-là. Maududi, donc, qui était pakistanais, je rappelle, 1903-1979, j'ai mes petites fiches sur les quelques idéologues djihadistes dont on parle. Je reviens vers vous, Stéphane Lacroix. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de tout ça? En tout cas, quel bilan Al-Zawahiri, lui, en fait? Parce que dans les années post-11 septembre, il va continuer à s'en prendre aux États-Unis et à ses alliés, il va les menacer régulièrement et il va produire du contenu idéologique. Il y a plusieurs ouvrages, Les cavaliers sous l'étendard du prophète, vous en avez parlé, L'allégeance et la rupture. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Quelles sont ses analyses, finalement, de l'évolution du djihad qui l'a conduit et qui l'a participé, finalement, à bâtir?
Je crois que, alors, il y a ce livre, effectivement, L'allégeance et la rupture, qui est très intéressant parce qu'il indique une chose qui est la salafisation grandissante du discours djihadiste, qui est quelque chose dont on peut tracer la progression. Hein, depuis les années 80, on voit comment, dans ce discours islamiste révolutionnaire, on va voir de plus en plus explicitement des références aux auteurs salafistes. Elles sont peu présentes chez Qutb. Coûte effectivement à ce concept englobant de Hakimiya dont parlait Farad, qui est une invention d'ailleurs, qui est un néologisme emprunté à Maududi et qui va voilà vouloir poser l'islam comme étant une autorité politique en soi, c'est-à-dire la souveraineté divine comme forme d'autorité politique. Mais Qutb n'est pas salafiste au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne puise pas tellement ses références dans les auteurs de la péninsule arabique, dans les auteurs wahhabites du 19e, dans tout ce corpus qui est celui des salafistes. Ce concept d'al-wala wal-bara, c'est-à-dire l'allégeance et la rupture que va utiliser Zawahiri, c'est l'un des concepts phares du salafisme. C'est cette idée qu'il y a d'un côté le groupe des vrais musulmans qui doivent faire allégeance les uns aux autres, c'est-à-dire faire communauté en se séparant absolument de tout ce qui est l'impiété, c'est-à-dire en rompant, donc c'est là la rupture, avec tout ce qui constitue la mécréance et l'impiété. Ce concept-là chez les salafistes, voilà, c'est cette vision un peu manichéenne, il y a l'islam et puis il y a l'impiété, il n'y a rien entre les deux. Ce que Zawahiri va faire et ce que les salafistes djihadistes vont faire, c'est de reprendre ce concept et de le politiser. C'est-à-dire de dire, cette rupture, elle ne peut pas se contenter d'être une rupture religieuse et sociale, elle doit aussi être une rupture politique, et l'expression de cette rupture politique, c'est le djihad contre les impies, en l'occurrence contre l'Occident, c'est-à-dire contre les Américains et leurs alliés. C'est intéressant de voir que Zawahiri lui-même, qui est peut-être pas le plus salafiste de tous, hein, il a un parcours là encore qui le distingue beaucoup de certaines figures, si vous avez évoqué Abu Qatad al-Falastini ou Abu Mohammed al-Maqdisi, qui sont des cheikhs palestiniens qui, eux, ont beaucoup plus grande familiarité avec les textes wahhabites. Mais Zawahiri lui-même va céder à la tentation de vouloir essayer de redéfinir son discours idéologique à partir de ce qui s'est imposé au début des années 2000 comme la nouvelle norme religieuse montante qu'est le salafisme. Quitte à faire une relecture du salafisme, parce que les oulémas saoudiens, évidemment, qui utilisent ce même concept de l'allégeance et de la rupture, refusent de le comprendre de la manière où Zawahiri le comprend.
Alors, Stéphane,
il y a une lutte autour de ce concept. Donc c'est important parce qu'il ouvre là, il ouvre la porte à quelque chose qui est déjà commencé, mais je veux dire, il donne une légitimité à cette salafisation du discours djihadiste, et ce concept de l'allégeance et la rupture devient pour les djihadistes l'équivalent fonctionnel du concept de la Hakimiya pour Saïd Qutb. Toute leur vision du monde va se construire autour de cette notion puisée dans le corpus salafiste d'allégeance et de rupture.
La salafisation du discours djihadiste. Vous me tendez une perche parce qu'effectivement, Al-Maqdisi, on en a parlé, mais en revanche, Abu Qatada al-Filistini, qu'on appelle parfois Abu Omar, on n'en avait pas encore parlé. Et justement, Farhad Khosrow Kavar, donc c'est un homme qui est né en 1959, en Cisjordanie, nationalité jordanienne, qu'on a surnommé l'ambassadeur d'Oussama Ben Laden en Europe. Peut-être qu'on pourra revenir sur ce point, mais il avait déploré, lui, au départ, les affrontements entre Al-Nusra, donc la branche syrienne d'Al-Qaïda, et l'État islamique. c'est un homme du consensus djihadiste qui prône l'alliance des différents groupes, et en l'occurrence des groupes salafistes.
Il va dans ce sens, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne prône pas comme les idéologues de Daesh, si vous voulez, la rupture au sein même du monde musulman en séparant ce qu'on pourrait appeler les bons musulmans des mauvais.
C'est-à-dire c'est l'homme de la synthèse.
Synthèse, en fait, c'est un mot, si vous voulez, qui pose problème. Mais disons que c'est l'homme des compromis stratégiques. Et par exemple, la notion d'al-wala wal-bara, si vous voulez, qui traditionnellement, enfin bon, signifiait dans le monde chiite, des fois on rapproche de ce qu'on appelle amr bil ma'ruf wa nahy an al-munkar. Bon, évidemment, ces deux notions ne sont pas identiques, mais j'ai vu vraiment des rapprochements de cette nature. Bon, cette notion, si vous voulez, eux, ils ne l'appliquent pas aux chiites. C'est-à-dire que les chiites ne sont pas les ennemis, du moins en ce moment précis. Par contre, Daesh, précisément, restreint le champ de ce qu'on pourrait traduire par allégeance et animosité. Enfin, il y a énormément de traductions. Je ne me souviens pas de celle de Stéphane et de ce livre. Mais disons que l'animosité ne s'exerce pas primordialement contre les chiites pour Al-Qaïda, alors que pour Daesh, cette animosité s'exerce contre eux.
Un mot, Stéphane Lacroix, sur Al-Falistini, dont je dis quand même que c'est un homme qui a résidé de longues années au Royaume-Uni, qui a été arrêté plusieurs fois dans les années 2000, pour évidemment ses liens réels ou supposés au réseau terroriste. Il a finalement été expulsé en Jordanie en juillet 2013, où il a été jugé et finalement libéré. On pourrait penser, une fois encore, je le disais tout à l'heure de façon un peu provocatrice auprès de Farhad Khosrow-Kabbar, que peut-être la Jordanie est complaisante, disons, avec les idéologues salafistes. Mais je voulais répondre sur cette figure d'Al-Falistini. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Stéphane Lacroix ?
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les Falistini, jusqu'à aujourd'hui, est du côté d'Al-Qaïda, c'est-à-dire n'a pas... et d'ailleurs, a été très virulent dans ses critiques contre Daesh, qui était probablement...
Dans un deuxième temps, pas au début.
Il n'a jamais été un enthousiaste. Au début, il s'est abstenu d'une critique... je veux dire explicite, mais par la suite il est devenu extrêmement critique, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les Jordaniens l'ont libéré. C'est-à-dire que là aussi, il y a clairement un jeu du pouvoir jordanien qui avait tout intérêt à pouvoir s'appuyer sur la parole de Abou Qatada al-Falastini, qui a énormément d'autorité dans les mouvements djihadistes, pour essayer de contrer l'attrait que Daesh pouvait susciter au sein du djihadisme jordanien. Et on sait que les Jordaniens, d'ailleurs, ont rejoint Daesh en très grand nombre. Ils font partie des nationalités les plus représentées. Mais là encore, dans ce débat sur salafisme et djihadisme, je pense qu'il y a quelque chose d'ambigu et qui est toujours intéressant. C'est-à-dire qu'on voit cette salafisation du discours djihadiste, c'est-à-dire la manière dont le discours djihadiste se dit de plus en plus dans les termes du corpus salafiste. Abou Qatada al-Falastini y participe, il en est même l'un des pionniers, c'est le cas de Zawahiri aussi, et en même temps, d'une certaine manière, on a l'impression que, comme le disait Farhad, ils prennent al-wala wal-bara, ils prennent ce concept de l'allégeance et la rupture, mais finalement, la pensée stratégique continue de l'emporter sur la pensée purement théologique. On a l'impression que Daesh, finalement, c'est l'aboutissement de cette fusion entre salafisme et djihadisme. C'est-à-dire que, pour Al-Qaïda, le politique continue d'être plus important que le théologique, même si on a une armature théologique de plus puisée dans le salafisme qui prend de plus en plus de place. Mais c'est Daesh qui finalement a fini par mettre le politique et le théologique au même niveau. C'est-à-dire que le politique définit le théologique et le théologique définit le politique. Et pour moi, d'une certaine manière, voilà, c'est Al-Qaïda qui a ouvert la porte à ça. Daesh, finalement, s'est contenté d'être, entre guillemets, de pousser la logique jusqu'au bout, quoi, jusqu'à son aboutissement.
Oui. Farhad Khosrow-Kabbar, un élément sur cette idée, effectivement, que la pensée stratégique finalement continuerait de l'emporter sur la pensée théologique, et d'une certaine manière que c'est Al-Qaïda lui-même qui en serait responsable. Et ce sera le mot de la fin, en guise de conclusion.
En fait, si vous voulez, pour vous donner une réponse, avec les notions de Hakimiya, on assiste à ce qu'on pourrait appeler la politisation de l'islam et l'introduction du djihad comme élément central. Avec Al-Wala wal-Bara, c'est la violentisation du politique, et là il y a une graduation, et là par exemple Al-Qaïda peut être qualifié de modéré par rapport à Daesh, mais en même temps ouvrant la possibilité d'aller plus loin que cette mouvance dans la violence, et en remettant en cause, si vous voulez, la trêve avec les autres, à savoir les chiites, c'est-à-dire 10 à 15% des musulmans du monde.
Merci beaucoup à Stéphane Lacroix qui est avec nous par téléphone. Et un grand merci à vous, Farhad Khosrokavar, de nous avoir accompagnés, d'avoir clos cette série sur les nouveaux regards du djihadisme. Je rappellerai deux de vos ouvrages, notamment celui qui était paru chez Plon l'année dernière, Le djihadisme, le comprendre pour mieux le combattre, que vous aviez coécrit avec David Benichou et Philippe Migaud. Et puis apparaître aussi Président de France, violence, radicalisation, déshumanisation, quand les surveillants et détenus parlent. Ce sera chez Robert Laffont.
C'est Robert Laffont, c'est La France des prisons, enfin quelque chose comme ça. On n'a pas encore fixé le titre. C'est en octobre.
Merci beaucoup, en tout cas, Farhad Khosrokavar. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet, mais juste avant de la retrouver, c'est comme chaque jour sur France Culture, La Vie Moderne. Très belle journée, à demain.